parole, de la parole.
Exactement, et la parole des affaires. Et c'est pour ça que ça faisait parfaitement écho à ce que disait Paul Magnan dans le récit du centurion. Vous savez que Pierre vient voir, Dieu le prépare à cette rencontre avec le païen, puisqu'il va devant lui voir un païen sur qui repose l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, eh bien, il repose sur lui au moment où Pierre, justement, l'enseigne, lui et sa famille. Il dit la parole du Christ, il dit la parole de Dieu. Eh bien, naît en lui la foi et le don de l'Esprit. C'est bien dans cette foi que nous sommes baptisés. C'est ce qu'on doit dire au début du baptême, au moment du baptême de ses enfants. Les gens disent leur foi, les parents et les parrains, les marraines. Et puis, est-ce bien dans cette foi-là que vous voulez que le petit Anatole soit baptisé ? Anatole, je te baptise. Et donc, ça. Voilà. Alors, le temps court et on va essayer de garder d'être dans les temps comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ce qui laisse 10 minutes à Anne pour conclure et me persécuter un peu aussi.
Alors, dans ce que je retiens de ce qui s'est échangé, de ce qui s'est dit, ce que vous avez dit, Père, déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on apprend à se poser des questions. Et ça, c'est top, parce que pourquoi moi ? Pourquoi suis-je choisie ? Pourquoi je ne suis pas choisie ? Pourquoi il y a des peuples qui sont choisis et pas d'autres ? Et ça, déjà, c'est déjà super de faire ce questionnement-là. Je crois que c'est très biblique de se poser des questions, et du coup, c'est déjà ça, ce questionnement. Voilà, pourquoi sommes-nous croyants ? Pourquoi pas d'autres ? Moi, je retiens toutes ces questions-là que vous avez en creux et qui sont à creuser. Je retiens également qu'il y a un passage obligé qui est le passage par l'écriture, par la connaissance de ce peuple un petit peu particulier qui finalement dit notre histoire. Toute l'histoire du peuple d'Israël avant l'arrivée de Jésus est notre histoire, parce que justement Jésus est le point culminant de cette histoire de ce peuple d'Israël. Et nous, on est devenus, on prend part en tant que chrétiens à cet héritage-là. C'est l'enfant prodigue. Allez le relire. L'enfant prodigue, il est fils, il a part à l'héritage du frère aîné. Il a la même chose et c'est une bonne nouvelle, ça, d'avoir part à cet héritage. Mais encore faut-il connaître l'héritage. Donc ce passage par l'écriture, par ce peuple un peu particulier, qui nous semble un peu supérieur, mais qui ne l'est pas, qui se dit même lumière des nations. Ce qui est étonnant, nous on est les nations. Voilà. Donc je pense retenir ce passage un peu particulier de l'élection, elle passe aussi par là. À partir du moment où maintenant nous on est configurés au Christ par le baptême, eh ben, on a part à cet héritage-là et on a ce devoir d'aller regarder un peu tout ce qui. De connaître Jésus aussi dans son histoire, dans ses coutumes, dans ses traditions, dans son histoire parce que c'est la nôtre. Je retiens aussi que Jésus est l'accomplissement de tout ça, de toute cette histoire. Le point culminant, votre idée de montagne était extraordinaire. Voilà, maintenant, moi, je me pose une question, grosse question. Qu'est-ce que cet accomplissement ? Est-ce que finalement, c'est l'achèvement de toute chose, parce que Jésus est arrivé, donc nous, on est bien tranquille ? Ou est-ce le commencement d'autre chose ? Voilà. Je pose des questions, en fait. Et puis je me pose aussi la question de savoir quelle forme va prendre notre élection, nous, en tant que baptisés. Parce que finalement, on dit que l'élection, c'est un choix. Pour beaucoup d'entre nous, semble-t-il, on a tous été baptisés bébés, peut-être. Enfin, moi, en tout cas. Je vous dis, au final, je ne l'ai pas choisi. Ça a été une histoire d'engendrement, encore une fois. C'est mes parents qui ont choisi pour moi. Donc, je ne l'ai pas choisi, ce baptême. Mais je ne peux pas le nier. Je dois vivre avec. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? J'ai été fait prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je le manifeste dans ma vie ? Je sens bien que ça appelle à beaucoup plus de responsabilités, que finalement cette élection, c'est pas être supérieur, c'est être super responsable. Et que du coup, ce que vous en avez dit sur cette mission de chrétien, d'aller évangéliser, ce que Paul dit en disant, mais c'est peut-être pas tout à fait ce passage, mais qu'ils sont beaux les messagers de la bonne nouvelle, parce que si j'ai pas des personnes pour aller l'annoncer, bah, comment vont-ils connaître le Christ ? Moi, je ressens, voilà, dans ce terme d'élection, cette nécessité. Nous, on sait maintenant. Et donc, du coup, il y a cette espèce d'urgence. J'aime bien ce texte de Saint Paul aussi qui dit j'ai comment on dit ça, c'est l'urgence à annoncer l'évangile, c'est malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, comme cette espèce d'urgence à annoncer l'évangile. Voilà, alors question, est-ce qu'on a, comment on se situe par rapport à notre baptême, par rapport à ce plus de responsabilité? Et puis dernière question, après je m'arrête, je vous laisse tout ça est-ce que finalement ça fait de nous, peuple chrétien, un peu comme le peuple juif, un peuple particulier? Est-ce qu'il faut qu'on soit voilà, noyé dans le monde? Est-ce qu'il faut qu'on se montre de manière particulière? Comment on vit ça, ce particularisme? Parce que finalement, bah, être chrétien, c'est quand même être un peuple, alors, un peuple séparé. La sainteté, c'est ça, c'est Dieu sépare les choses. Est-ce qu'on est séparé du monde? Est-ce qu'on est particulier? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas le but d'être chrétien par rapport à un peuple juif qui, lui, se dit bien séparé, qui le montre bien par des lois, par, on voit bien, on les reconnaît quand même, grosso modo. Mais voilà, ils ont volontairement été séparés parce qu'être saint, c'est être séparé. La racine de sainteté, c'est être séparé. Mais qu'est-ce que c'est que cette séparation? Est-ce que nous, on a ça à jouer? Ou est-ce que nous, on est tellement configurés au Christ que finalement, ben voilà, plus qu'à le suivre. Et puis, voilà, ce sont toutes mes questions en guise de conclusion. Du coup, je ne vous apporte peut-être pas grand-chose dans la conclusion du Père, mais c'était ça que je retenais dans votre intervention.
Laissez le poème, ça peut réfléchir. Je vous disais tout à l'heure que le Christ est uni à tous les hommes, et que l'Évangile leur appartient. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, le non-croyant a son rôle, un rôle majeur. C'est-à-dire que le non-croyant fait partie du plan de Dieu. C'est-à-dire, mon bonhomme, mon mari qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, qui a l'air de s'en ficher éperdument, lui, il dit, oh, c'est l'histoire de ma femme, elle est pieuse, ou sa mère est pieuse, donc elle est pieuse. Donc elle dit ça, c'est des histoires de juifs, en quelque sorte, vous voyez. C'est l'élu. Ma femme, c'est la juive, bon, bah, et comme ça, je sais bien qui en est. Moi, non. Ça, c'est le péché du païen. Le péché de la juive, de la croyante, ça va être, oh, mon pauvre mari, vraiment, il ne croira jamais. Il est vraiment, c'est un rationaliste, vous savez. Non, mais je prie pour lui, parce que bon, quand même. Un jour, peut-être, il découvrira le bonheur que je partage avec Jésus. Un peu comme ça. Donc ça, c'est le péché de l'élu. C'est-à-dire que je suis campé dans mon affaire, je n'ai rien à attendre du païen. Ça ne sert même pas de dialoguer avec lui parce qu'il ne comprend rien, votre collègue. Et en plus, il s'en fout. Donc, il n'y a rien à attendre de lui. Ça, c'est le péché de l'élu. Vous voyez, c'est le juif qui s'enferme. Et voilà. Donc, lui, le Christ, il fait sauter tout ça en nous en comprendre, comme vous l'avez si bien dit, que si je suis juif, si je suis élu, si je suis chrétien pratiquant, c'est un don gratuit. Et si lui, il n'est pas croyant, c'est pas que Dieu l'aime pas ou qu'il n'en est pas digne. Il a son chemin, et son chemin fait partie du plan de Dieu, y compris pour moi. Donc, tout va se jouer, du coup, dans le dialogue. On comprend bien que la clé, c'est de parler. C'est de dialoguer. Pas depuis du beau temps. De dialoguer du fond. C'est ce que fait Jésus sans cesse. Jésus sans cesse dialogue. Et même les pharisiens qui ont décidé de le tuer, ça c'est dans Marc chapitre 3, décident de le tuer parce qu'ils voient que Jésus est habité par l'esprit de Satan. Donc ils disent, Jésus est habité par l'esprit de Satan, nous n'en voulons pas. Et il dit à Jésus, tu es habité par l'esprit de Satan. Donc pour le dialogue, c'est quand même très très mal parti. Hein. Comme ça. Que fait Jésus? Il les appelle auprès de lui. Et c'est exactement l'expression qu'il a utilisée peu deux chapitres avant dans Saint-Marc pour appeler les apôtres. Exactement la même. Il les appelle à lui et il leur parle en parabole. Vous voyez, vraiment, Jésus, c'est sûr, c'est l'anti-sacré. C'est celui qui fait tomber les barrières et les murs et qui entre en dialogue. Non pas parce que c'est un type super, mais parce que c'est le plan de Dieu. S'il y a l'élu, si Jésus est l'élu, c'est pour entrer en dialogue. Et nous, comme chrétiens, nous devons être persuadés que mon mari qui n'est pas chrétien, ou ma femme qui n'est pas chrétienne, mes enfants ne sont pas chrétiens, ils ont un rôle à jouer avec moi, pour moi. Et il est vital que j'entre en dialogue avec eux. Certain que eux aussi, le Christ est présent en eux, et que s'ils ne se considèrent pas comme élus, effectivement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'élection. Ils ne connaissent pas le contenu, ils ne connaissent pas encore l'amour dont Dieu les aime dans le Christ. Voilà, donc là, c'est pour bien resituer la première question qu'on s'est posée au tout début du cours. Pourquoi des croyants et des non-croyants? Pour moi, vraiment, c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est pour saint Paul, ou à la lumière de l'élection d'Israël, sinon on ne comprend pas ça. Par la lumière de l'élection d'Israël, on comprend que les non-croyants font partie du plan de Dieu. Et que la clé, c'est l'amour des non-croyants, enfin, le dialogue et la relation avec les non-croyants. Et moi, je vois des couples qui s'entendent très bien, mais il y a un croyant et un non-croyant, mais sur la religion, on n'en parle pas. Ils sont dans le péché, justement. La juive, elle se ferme, lui dit, c'est pas mon affaire, c'est l'histoire de bonne femme, et c'est terminé. Ils s'entendent très bien, tout va très bien, c'est pas le problème. Mais sur ce sujet-là, il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est ça qui va vous faire sauter. Et c'est pareil avec vos enfants et avec vos petits-enfants. Mais il ne faut pas, bien sûr, leur parler en disant « Ah, mon pauvre chéri, tu ne vas pas à la messe, ce serait quand même bien pour faire plaisir à ta vieille mère que tu fasses baptiser tes petits-enfants, hein, parce que quand même, ce serait quand même mieux, enfin, je ne sais pas, fais-moi plaisir, sois gentil, je vois bien que tu me fais la peine. » Mais ça, c'est catastrophique, évidemment. Mm-hmm. Donc, en fait, le dialogue va commencer par le regard que je porte sur mon fils qui n'est pas croyant. La manière dont je le regarde, dont je le considère, dont je sais que le Christ est en lui, et que son chemin a un rôle très important pour toute la famille. J'ai eu le cas, mais vraiment lumineux, d'une famille, alors, hyper, hyper catho, classique, tout le monde était dans les rangs, ça, vraiment. Mais c'était très beau, d'ailleurs, c'est très rayonnant, c'est génial. Sauf une, le vilain petit canard. Mais alors, vraiment, voilà, parfait. Alors, il se trouve que je suis tombé assez ami avec elle, une fille assez patente, et justement, j'ai commencé un dialogue comme ça avec elle. Aujourd'hui, c'est un pilier de sa paroisse, et voilà. Mais elle a eu un rôle hyper important dans sa famille, parce qu'elle a dit à sa famille, si vous êtes chrétien, c'est pas parce que vous avez une bonne éducation, c'est pas parce qu'on vous le doit, ou que c'est vous, par vos efforts, qui l'avez obtenu, ou qui le gardez. Et si vous êtes encore chrétien demain, c'est pas parce que vous êtes... parce que vous gardez bien votre foi, c'est parce que Dieu vous en fait le don à chaque instant. Et bien c'est un don purement gratuit. Et ça, ben après j'en ai parlé avec les parents, enfin, bon, c'est effectivement ça qui était véridique. Là, je l'ai vu vraiment en direct dans une famille. Bon, je pense que ça concerne certaines de vos familles. Bon, c'est fini. Mais, non, je dois quand même vous dire, j'ai écrit un petit paragraphe. Je suis assez content, je dois vous le dire. Ça fera 3 minutes de plus, mais... La gratuité est la marque de l'amour. L'amour n'a d'autre raison que lui-même, ni d'autre récompense que lui-même. C'est Saint-Bernard qui dit ça. L'amour ne s'achète pas, il est don gratuit et sans retour. Ainsi est Dieu en lui-même. Dieu est amour, nous disons dans la première lettre de Saint Jean, parce qu'il est communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Il est amour parce qu'il est don des trois personnes de la Trinité les unes aux autres. Don total, sans retour, don gratuit. Par l'élection, Dieu parvient non pas seulement à nous faire comprendre, mais surtout à nous faire accepter la nature même de l'amour qu'il est lui, Dieu en lui-même, et amour qu'il a aussi pour nous. Il le fait à des hommes dont le cœur est fermé et dans un monde où tout se paye et où tout se compte. À des hommes qui donc, dans leur état, sont incapables de vivre l'amour vrai jusqu'au bout du don total de soi. Ce qui nous fait toujours peur, d'ailleurs, quelque part. Est-ce que je saurais aimer mon fils, ma femme, jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, quoi qu'il m'annonce, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de pareil. Le seul homme à l'avoir vécu jusqu'au bout est Jésus. Il est l'unique, le seul choisi dans l'unique élection d'Israël. Et il nous fait entrer là où ni Israël, ni aucun homme ne peut entrer par lui-même. Il nous fait entrer dans l'amour même qui l'unit à son Père et qui doit fonder la communion de tous les hommes entre eux pour l'éternité dans un monde tout à fait nouveau. C'est fini. Et du coup, la question, c'est qui est Jésus ? qui est cet homme? Qui est l'élu? Comme vraiment homme, comme vraiment Dieu. Il va falloir creuser le mystère de cet homme. Et c'est ce que le père Sylvain Dossou et madame Geoffrey vont faire lors de la prochaine session en mars. Donc, ne manquez pas cette ultime et dernière étape du scriptique. Merci beaucoup.
Merci. Anne. Merci.